Merci, merci. Oh, à la chorale.
Alléluia, 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 oh, oh, alléluia, 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 alléluia.
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 Mais oui, oui. Non, mais attends, l'heure tourne. Il faut commencer la réunion maintenant. Hein.
Ma femme a des piles longues durées.
Duracell. Alléluia. Je crois que je lisais quelque chose l'autre jour. Et c'était le psaume 23. On a chanté tout à l'heure. Il disait que ma coupe déborde. Et parfois, on se trouve devant toutes sortes d'épreuves. On parle des ennemis, mais c'est rare qu'on a vraiment...
D'accord.
C'est rare aujourd'hui qu'on a vraiment des gens qui cherchent à nous tuer quand on sort de la maison le matin. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une armure en vrai et d'avoir peur de porter une javelot dans le métro de peur que quelqu'un va nous agresser. Mais nos ennemis sont plus subtils aujourd'hui. Ce sont les ennemis de nos âmes. Ce sont les choses que l'ennemi, l'adversaire, le diable, si on veut, se met en place pour nous nuire, pour nous empêcher d'être épanouis dans notre vie. Et tous les jours, on a besoin de mettre cette armure spirituelle et pour pouvoir sortir, pour attaquer la journée avec un bon état d'esprit. Et quand on parle de ma coupe déborde, juste avant ça, ils disent, Seigneur, tu huiles ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après qu'on a fait un shampoing, qu'on s'est coiffé, à un moment donné, on va avoir un verre d'huile d'olive versé sur la tête, on ne va pas avoir une bonne allure pour y aller au travail. Ce n'est pas vraiment ça. D'avoir la tête huilée, c'est de recevoir vraiment l'onction de Dieu. C'est d'être bien dans ses pompes. Hein? Moi, j'aime bien d'avoir des pompes où je suis bien à l'aise. Moi, j'aime bien d'être bien debout, bien dans mes fringues, bien dans mon corps, dans mon âme, dans ma tête, dans mon cœur. Et pour pouvoir y aller à l'attaque à chaque journée, parce que ce monde ne nous fait pas cadeau. Alléluia. Et les ennemis, eh bien, ce sont parfois des circonstances, ce sont des pièges que l'ennemi met devant nous, ce sont des mensonges qu'il nous essaye de faire croire tous les jours qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne va pas arriver, que de toute façon, nos efforts vaut rien. Mais le Seigneur, il nous dit tout à fait le contraire. Il dit tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il prend en compte et va faire prospérer. Si notre cœur est en place, on n'a pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Ni de la ténèbre, ni de la... on dit que... Comment ça se dit? Ça se dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir peur de terreur de la nuit ni les flèches qui volent de jour. On n'a pas besoin. On peut sortir le matin. OK, c'est bon. Allez, que la vie vient. Je suis prête. Prête à l'attaque. Et comment on peut faire ça? Claude, il parlait hier que la joie du Seigneur est ma force. Et il a aborder ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aimerais rebondir sur une phrase que Claudie l'a dit hier. Il a dit qu'on peut interpréter ce passage en disant, si mon papa est au ciel, si Dieu il est heureux, alors je peux y aller avec confiance. Et c'est comme un enfant que quand son père et sa mère, quand eux ils sont heureux, quand ils vont bien, eh bien l'enfant il a du courage. Quand il voit que ses parents, ils ont des soucis, qu'ils sont déprimés, qu'ils sont torturés, ou qu'ils sont violents, ou qu'il y a plein de choses dans leur vie qui ne sont pas réglées, qu'il y a un manque de pardon, qu'il y a toutes ces choses-là, eh bien, l'enfant, il est dans l'insécurité. N'est-ce pas? Et comment on peut sortir le matin de notre maison avec pleine assurance si papa et maman ne vont pas bien? Eh bien, si notre Dieu céleste, il va bien. Alléluia. Et qui aurais-je peur si l'Éternel est avec moi? Que peut faire des hommes si toi, Éternel, tu es avec moi? Et quand Claudie l'a dit hier, il m'a dit, il nous a dit, eh bien, la joie de Dieu est notre assurance. Et c'est vrai qu'il communique cette joie. Et ensuite, on peut y aller avec confiance. Même pas peur. Alléluia. Vous pouvez le dire avec moi, même pas peur. On peut y aller. Avec confiance. Et je vais prendre tous les avantages de ma position en tant qu'enfant de Dieu et je vais marcher dans l'assurance et la confiance. J'ai perdu ma maman la semaine passée. Elle est partie pour être auprès du Seigneur. Et on a eu la cérémonie que mercredi. Et me voici, je suis avec vous aujourd'hui. Et le Seigneur, il m'a dit, pas plus loin qu'hier, il m'a rappelé ce passage. Il m'a dit, moi, je suis tellement heureux d'avoir Hazel, elle s'appelait Hazel, d'avoir Hazel avec moi. Alors tu peux être aussi dans la joie et tu peux avoir pleine confiance pour continuer ton chemin. Alléluia. On peut peut-être avoir passé par des épreuves difficiles. On peut peut-être avoir perdu un membre cher de la famille, que ce soit un parent ou un enfant, que ce soit un frère ou une sœur. La vie ne nous fait pas toujours cadeau. Alléluia. Parce qu'il y a des flèches qui sont tirées de toutes parts. Mais dans cette même psaume qui dit, celui qui demeure, c'est le psaume 91, il dit aussi, même si 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, alléluia, tu ne craindras rien. Tu ne seras pas atteinte. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras les rétributions des méchants. Toutes ces choses, tous ces plans qui étaient forgés contre toi n'auront aucun effet. Parce que tu vas être dans la sécurité de marcher avec un papa qui est heureux. Heureux parce que toi, tu l'appartiens. Est-ce que tu savais que tu es le sujet de sa joie? Et chaque fois qu'il pense, je vais à vous, mais à toi, et à toi, et à toi, chaque fois qu'il pense à moi, eh bien, il est content. Il est content, pas parce que je suis parfait ou parce que j'ai réussi à faire des choses d'une manière impeccable, mais il est content parce qu'il sait que je l'aime. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le sauverai parce qu'il connaît mon nom. Alléluia. Il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Donc ça ne va pas dire qu'on ne va pas passer par des choses difficiles. Mais le Seigneur, il nous donne cette promesse qu'il nous délivrera. Il nous rétablira, il nous rendra notre honneur. Alléluia. Alors on peut marcher avec la tête haute. On peut être fiers de qui nous sommes. Vous êtes fiers de qui vous êtes? Alléluia. Vous devrez être fiers parce que vous êtes beaux. Vous êtes super beau, vous êtes joli. Alléluia. Magnifique. Alléluia. Je vois que des enfants de Dieu qui rayonnent. C'est merveilleux. Et la vie est tellement courte et tellement précieuse qu'on n'a pas une journée à perdre dans la tristesse. Et j'ai appris une chose, qu'on peut passer à travers cette vallée de l'ombre de la mort et quand même rester dans une joie profonde. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces épreuves sont que passagers, mais que la joie, elle va demeurer à jamais. Alléluia. Et je me rappelle, il y a juste 3 jours avant que maman est partie, je lisais justement ce passage qui disait, « Tu places une table devant moi, face à mes ennemis. Tu oins l'huile ma tête et mon coupe déborde. Certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, pas juste de temps en temps, quand on est au culte ou quand on est bien avec des amis, mais tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Mais il y a une autre traduction qui dit « à jamais ». Ça me plaît encore plus. Et je lisais ce passage à maman, et C'était une des dernières choses qu'elle a pu dire parce qu'elle n'arrivait plus à parler. Elle disait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel à jamais. Et c'était comme si c'était pour me rassurer. Je sais où je vais, ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, elle n'a jamais eu peur de partir. Elle m'a dit, un jour, je vais changer d'adresse. Eh bien, elle a changé d'adresse. Ce n'est pas comme si je l'ai perdue parce que je sais où elle est. Alléluia. Et je sais que mon papa, il est tellement content de l'avoir près de lui parce que c'était une femme comme ça. Et que je peux continuer ma vie en étant fière de qui elle était et de qui elle a fait de moi. Parce qu'elle m'a transmis des tas de bonnes choses. Alors aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Alléluia. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à jamais. Et ça ne commence pas juste quand on passe de l'autre côté. Hein? Ça commence aujourd'hui. Vous habitez déjà dans sa maison. Alléluia. Sa demeure est déjà votre chez vous. Alléluia. Vous pouvez entrer à chaque instant. À chaque moment que vous voyez un ennemi au coin de la rue. Chtonc, tonc, tonc. Même pas peur. Dis-le avec moi. Même pas peur. Je peux le faire. Aujourd'hui et demain. Que la vie vient. Qui vient devant moi. Alléluia. Parce que la victoire est à moi. Et le Seigneur marche à mes côtés. Alléluia. Soyez bénis. Vas-y, Claude.
Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, pour l'éternité. Vous savez qu'il y a une traduction qui dit « Le bonheur et la grâce me poursuivront ». Et je vais même plus loin, il y a encore une autre traduction qui dit « Le bonheur et la grâce me persécuteront ». Vous n'avez pas envie d'arriver au culte là le dimanche matin, on te dit « Qu'est-ce qui a été fatigué ?» J'ai été poursuivi toute la semaine par le bonheur et la grâce. On est souvent habitués au contraire, les gens qui disent « Le diable m'a couru après toute la semaine. » Le bonheur et la grâce me persécutent. J'étais trop béni. Je cherche des gens avec qui partager la bénédiction. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves dans la vie, on est d'accord. On ne va pas remettre ça en question, ne tombant pas dans les déséquilibres. Mais le Seigneur nous a destinés à être vainqueurs de chaque épreuve. Et une épreuve, c'est l'occasion pour que Dieu nous fasse gagner des galons. Une épreuve, c'est l'occasion d'affronter un Goliath, parce que pour passer dans une dimension supérieure, elle sera toujours précédée par une épreuve. Amen. On dit que la vie chrétienne, c'est la vie pour les gens faibles, les gens qui cherchent les choses faciles. Non, ce n'est pas facile, la vie chrétienne. C'est pour les vaillants guerriers. C'est pour ceux qui veulent faire sortir d'eux le vaillant guerrier. C'est pour ceux qui ne veulent pas suivre le train naturel de la vie que suivent tous les hommes et toutes les femmes sur cette terre. Alléluia. Donc si vous avez choisi de marcher avec et après Jésus, vous n'avez pas choisi la solution de facilité. Vous avez choisi d'être des combattants. Vous êtes des hommes et des femmes courageux. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous assène de messages qui vous rabaissent continuellement et qui vous disent à quel point vous êtes petit, petit, petit. Et c'est de ça que je vais parler cet après-midi. De la raison que nous avons en tant que personne authentiquement née de nouveau, d'être dans la joie et de laisser cette joie demeurer dans notre vie. Qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur un jour? C'est rassurant. Donc, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes né de nouveau. Il y a des choses qui sont attachées à la nouvelle création que vous êtes devenue. La joie et la paix ne sont pas une option dans votre vie. Elles font partie de la nouvelle créature, de la nouvelle création. Elles font partie de vous. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'impression que vous avez perdu la joie et la paix, c'est un mensonge parce que vous ne pouvez pas perdre la joie et la paix. Vous pouvez avoir des émotions qui vous trompent, vous pouvez être submergé dans vos émotions à cause des problèmes qui se sont mis sur votre route, qui vous font penser que la joie et la paix ont été perdues. Mais je voudrais vous dire une chose, lorsque vous montez dans une voiture, même si vous avez le sentiment que vous avez perdu votre joie et votre paix, vous ne pouvez pas être dans la voiture et la joie et la paix à l'extérieur. Parce que la joie et la paix font partie de votre nouvelle nature. Et on dit parfois aux gens, tu sais, pour retrouver la joie, il va falloir que tu jeûnes pendant 15 jours, il va falloir que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mais non, c'est simple et c'est facile de retrouver la joie. C'est comme se baisser et récupérer ce qui nous appartient. Simplement, nous l'avons vu hier, c'est un acte de notre volonté. Et cet acte de notre volonté, il est basé sur la foi dans ce qui m'appartient. Et cette foi, elle a une valeur pour être libérée au moment où, justement, humainement parlant, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Hello? C'est facile d'avoir la foi pour la prospérité lorsque nos comptes en banque sont remplis à déborder. C'est facile d'avoir la foi pour la guérison lorsque je suis en bonne santé. C'est facile d'avoir envie de pardonner ceux qui ne m'ont rien fait. Vous comprenez? Donc, chaque manifestation de foi que je dois libérer, c'est parce que ma foi est mise au défi. Amen? Quand je dois aimer les gens qui m'aiment, c'est facile. Mais je suis mis au défi quand je dois aimer les gens qui ne m'aiment pas. Amen? Quand Dieu et le Saint-Esprit me disent « Fais une offrande à cette personne qui ne t'aime pas », c'est plus difficile de formuler le chèque. Et pourtant, la Bible nous appelle à vaincre le mal par le bien. Rappelez-vous, on ne peut pas vaincre le diable avec ses propres affaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous faudra toujours payer la location. Vous avez vu comment l'adversaire essaye de faire peur aux gens à travers toutes sortes de films, de séries télévisées, toutes sortes de créatures hideuses qui libèrent des aliens. Il veut créer la peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la peur a un pouvoir. La peur a le pouvoir de court-circuiter la foi. Lorsque Pierre, au commandement de Jésus, et pourtant Jésus était là en chair et en os, a commencé à marcher sur l'eau, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a regardé au vent. Et il eut peur. Alors on peut se dire, mais pourquoi il a regardé au vent? Le vent, pourtant, il soufflait depuis un moment. Et parce qu'à partir du moment où il a décidé d'obéir à Jésus et de marcher sur l'eau, le vent a dû souffler plus fort. Donc son attention a été attirée par le vent, et là, il eut peur. Et quoique Jésus soit là en chair et en os, il a coulé. Sa foi a été court-circuitée. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que quelqu'un est en train de dire cet après-midi, il a l'air bien gentil ce pasteur avec sa petite queue de cheval là, mais s'il y avait Jésus en chair et en os, au moins on serait sûr d'avoir des miracles. Ben là, il y avait Jésus en chair et en os. Amen. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, il n'a pas dit je vous enverrai Claude Payan. Il a dit si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons un avantage cet après-midi, c'est certainement pas parce qu'il y a Claude et Julia Payan avec vous, je tiens à vous rassurer, nous n'avons pas un tel ego, mais parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et Jésus a dit que c'est avantageux, donc ça veut dire que nous avons un plus au lieu d'avoir un moins. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Jésus marchait sur cette terre il y a 2000 ans dans son corps de chair, il pouvait se trouver que dans une réunion à la fois. Mais aujourd'hui, de par le Saint-Esprit, pendant que nous avons cette réunion ici, il y a des millions d'autres réunions de par le monde avec le même Saint-Esprit. Donc nous n'avons pas un moins, nous avons un plus. Amen. Dis-le à ton voisin, tu n'as pas un moins, tu as un plus. Alors le diable essaye de libérer dans ce monde toutes sortes de créatures hideuses. Je ne sais pas, je vais dire si vous avez vu, je ne les regarde pas, mais à la télévision, c'est toutes sortes de séries noires sur les crimes. Vous avez vu ça? Les titres des séries? C'est macabre. Il veut libérer de la peur. Parce qu'il sait que la peur a un pouvoir dans ce monde. Elle empêche l'action de Dieu de se manifester. Mais moi, je voudrais vous donner une bonne nouvelle, c'est que si le diable, il libère ses créatures hideuses, Dieu, il a libéré sa créature aussi. Amen. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ce n'est pas aux chrétiens d'avoir peur de ces créatures hideuses et de ces démons, c'est aux démons d'avoir peur de la créature que Dieu, il a libérée dans ce monde.
Il a libéré en Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. Il a envoyé son onction et son Saint-Esprit pour agir à travers les créatures que nous sommes et qui libèrent dans ce monde pour court-circuiter, là, au contraire, le pouvoir de la maladie, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la peur, le pouvoir du manque. On parlait avec mon frère dans la voiture et justement, comme on parlait justement du départ de ma belle-mère, il nous mentionnait que beaucoup de chrétiens, même au Gabon et dans beaucoup d'endroits de France aussi, ont toujours peur de la mort et de tout ce qui a rapport à la mort. Mais parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils sont devenus de nouvelles créatures. Et c'est à la mort d'avoir peur de toi. Mais ça ne marche que par la foi. Alléluia! La Bible dit donc dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette créature que nous sommes devenus par la nouvelle naissance a reçu un pouvoir, elle a reçu de la joie, elle a reçu une onction qu'elle est appelée à manifester pendant le temps qu'elle passe sur cette terre. Lorsque Pierre et Jean rencontrèrent le paralytique à la sortie du temple, il est dit une chose qui peut nous sembler, oh là là, pas du tout religieuse. Pierre regarde le paralytique, et vous savez ce qu'il lui dit? Il ne lui dit pas, regarde à Jésus. Il lui dit, regarde-nous. Oh là là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne voulait certainement pas dire, regarde-nous parce que nous avons une puissance sans Jésus. Amen. Il voulait dire, regarde-nous, parce que la puissance de Jésus, de toute façon, elle ne va pas sortir du mur. Elle ne va pas sortir d'un nuage. Dieu n'est pas venu habiter un panier. Il est venu habiter des hommes et des femmes qu'il a fait naître de nouveau. Dans cette puissance, elle va sortir de toi. Quand pasteur Cyril y prie pour toi, attends-toi à ce que quelque chose sorte de lui et vienne pour briser le joug dont tu as besoin d'être délivré. Amen. C'est important de s'attendre à ce que quelque chose sorte des hommes et des femmes que Dieu a placés sur cette terre. Des serviteurs de Dieu, bien sûr, mais nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Alors je sais qu'il y en a qui tombent dans le déséquilibre et qui utilisent cette vérité pour glorifier l'homme. Mais ce n'est pas l'homme que je veux glorifier. Malheureusement, on tombe dans tous les déséquilibres avec toutes les vérités bibliques. Amen. Le fait que beaucoup se glorifient aux dépens de Jésus ne remet pas en question que Jésus habite en nous. Et c'est pourquoi, si vous continuez à lire dans les Actes, plus loin, lorsque les hommes voient que ce miracle a été accompli par les mains de Pierre et Jean, ils commencent la foule à les entourer, ils veulent les glorifier. Et c'est là que Pierre, il dit une autre chose, il leur dit, mais pourquoi nous regarder? Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'était par notre propre force qu'on avait fait ça? Vous voyez, il connaît sa vraie position, mais il la connaît à la fois dans l'humilité de ce que la puissance ne vient pas de lui, il la connaît à la fois dans l'assurance de savoir le dépôt qui a été placé en lui. Vous voyez l'équilibre qu'il y a trouvé. Et souvent, nous avons des chrétiens qui sont dans un déséquilibre ou un autre. Ou ils glorifient l'homme, c'est moi, la superstar serviteur de Dieu, et Jésus disparaît. N'est-ce pas? Ou alors, je ne suis rien. Ben, si tu n'es rien, ne prie pas pour moi. Si tu n'es rien, tu n'as rien à m'apporter. Est-ce que vous suivez? Alléluia! Demandez à votre voisin s'il suit. Et Pierre, il ajoute, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen! Si Julia et moi nous voyageons, nous devons être les premiers à croire que nous avons quelque chose à vous apporter. Amen. Je ne peux pas être là en disant, ah ben, on est venu parce qu'on va toucher une offrande. On est venu parce qu'on a envie de vendre des CD quoi, ce week-end. Hein? Ça ne suffit pas. Il faut qu'on croie qu'on a quelque chose à apporter. Alléluia. Mais il faut aussi qu'on soit conscient que sans le Seigneur, on est fichu. Tous. Amen. C'est pourquoi avant les réunions, je prie, Seigneur, donne-moi ta pensée. Parce que si j'apporte la pensée de Claude Payan, ils ne vont pas aller bien loin, les gens. Alléluia. Donc, s'il y a des gens orgueilleux qui ne cherchent qu'à attirer l'attention sur eux, tout faire pour ne pas attirer l'attention sur soi comme un éléphant d'antre avec des équilibres va empêcher les gens de notre côté de recevoir ce que Dieu veut manifester à travers eux. Pour parler de Christ, il faut parler de son œuvre, du pourquoi de sa mission. Et quelle était la mission de Christ ? C'était de se former un peuple de personnes authentiquement nées de nouveau, alléluia, des fils et des filles. Il est mort pour nos péchés. Sa mission, c'était d'engendrer des nouvelles créatures. Il y a donc un message très important à capter là-dedans, qui n'est pas là pour glorifier l'homme, mais pour glorifier l'œuvre de Jésus-Christ. Car si nous n'avions pas été pécheurs, si nous n'avions pas eu besoin d'être rachetés, Christ ne serait jamais venu mourir sur cette terre. Donc le but du sacrifice de Christ, c'est vous et c'est moi. Le but de sa résurrection, c'est vous et c'est moi. Il y a donc tout un manteau religieux à dépoussiérer pour pouvoir assumer qui nous sommes devenus en Christ et grâce à Christ. La Bible dit en effet dans Galates 6,15, et mesurez l'affirmation, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est quelque chose, ce n'est pas un sujet secondaire. La parole vivante dit, une seule chose importe, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu a créée en nous. Waouh ! Donc la joie du Seigneur est ma force, mais elle est agissante à condition que je réalise quel est mon partage. Sinon, je vais continuellement croire que j'ai perdu ma joie. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et au sujet de cette nouvelle créature que nous sommes, vous et moi, je voudrais, pour vous aider à mieux la comprendre, et vous aider à mieux glorifier Christ, et je dirais à mieux laisser Christ couler à travers vous, j'aimerais vous partager 4 points qui la concernent. D'abord, son statut de nouvelle créature. Son statut, ce n'est pas le statut de misérable chrétien. On entend souvent les chrétiens dire « je suis un pécheur ». Je suis un pécheur, nous sommes des pécheurs. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi si tu le crois. La Bible dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Elle nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Mais comment est-ce qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce si on s'approche en tant que pécheur ? Donc la seule solution, c'est de s'approcher en tant que juste. Mais comment est-ce que je peux être juste puisqu'il m'arrive de pécher et je sais que je suis imparfait ? Mais justement, en ne comptant pas sur ta propre justice et en réalisant que si tu es juste, c'est parce que tu as été déclaré à cause de Jésus-Christ, justice de Dieu. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, une vie de juste, une vie que tu es incapable et que je suis incapable de vivre. Et l'ayant vécu, il prend cette justice et il t'en fait cadeau. Comment est-ce que tu t'appelles, mon frère ?
William.
William. Et il dit, William, tu es injuste à partir de maintenant. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens, ne commence pas par ses épîtres en disant aux pauvres types qui sont à Corinthe, aux pauvres vieux d'Éphèse. Il dit, aux saints. Saint William. Amen. William, tu n'as pas besoin d'être canonisé si tu connais le Seigneur. Parce que tu l'as déjà été. Vous n'avez... Qui connaît le Seigneur ? Qui l'a accepté comme sauveur ? Donc, vous n'avez pas besoin d'être canonisé. Vous l'avez déjà été. Comment est-ce que vous appelez, ma sœur ?
Véronique.
Sainte Véronique, bonjour. Est-ce que vous comprenez ? Après, la religion essaie de nous rendre saints par des méthodes et par des rites. Mais c'est une offense à l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez ? Et puis, je vais vous dire une chose. Si mon statut, à mes propres yeux, c'est misérable, c'est pécheur, c'est comme si je donnais un commandement inconscient à ma personne, une autorisation pour pécher. Donc, je vais avoir plus de mal à résister au péché. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? C'est assez logique. Un boulanger, qu'est-ce qu'il fait ? Très, vous avez des membres, super. Très bien enseigné, alléluia. Un boulanger, il fait du pain. Un musicien, il fait de la mue.
Musique.
De mieux en mieux. Et un pêcheur. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, c'est comme à l'entrée de certains magasins. Il y a un panneau, si le magasin est ouvert, il y a marqué ouvert. S'il est fermé, il y a marqué fermé. Et peut-être que tu es venu en ce jour, dans ce lieu, avec à la porte de ton cœur un panneau sur lequel il y a marqué pécheur. Mais tu vas le retourner. Et tu vas ressortir comme juste. Parce que tant que tu es pécheur, tu ne peux pas être exaucé. Et c'est normal que ta vie chrétienne ne marche pas comme elle devrait marcher. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Je ne sais pas si vous suivez. L'esprit religieux n'aime pas ça. L'esprit religieux, il aime dire « Seigneur, je suis misérable. Frappe-moi encore, Seigneur. » Et dites-moi, la vie, elle est assez compliquée sans qu'on demande encore à Dieu de nous taper dessus. Hein? Et le diable, il le fait suffisamment. Vous êtes d'accord? Dans mon statut, le statut de la nouvelle créature, c'est juste. C'est pour ça qu'elle peut rentrer au ciel. Si son statut c'est pécheur, elle ne peut pas rentrer au ciel. Aucun pécheur ne rentre dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu mourir pour nous faire un cadeau de sa justice. Pour que nous soyons un peuple saint. Et la Bible nous dit qu'il nous a présentés aux yeux du Père, saint, pur et irrépréhensible. Tu n'es pas saint, pur et irrépréhensible aux yeux de ta femme. Elle connaît tous tes défauts. Ça ne t'empêche pas de t'améliorer. Hein? Là, les femmes, là, c'est bon dans l'autre sens. Hein? Ton mari connaît tous tes défauts. Tu n'es pas saint, pur et répréhensible aux yeux de ton mari. Mais aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te voit lorsque tu es bien disposé, que tu as un cœur bien disposé. Il te voit à travers le sang de Jésus. Amen. Voyez, entre l'enseignement de la parole de Dieu et l'enseignement religieux qui veut toujours nous rabaisser, donc il est normal que quelqu'un qui n'a pas confiance dans ce qu'il a reçu, lorsqu'il prie, ne s'attende pas à ce que les maladies soient guéries. Il dit, on va prier, on va voir si ça marche. Donc il est important d'avoir, non pas de l'assurance en nous-mêmes, mais d'avoir de l'assurance en Christ en nous. Alléluia. Donc, bien comprendre quel est notre statut, bien comprendre quelle est l'onction qui demeure sur nous, mais nous avons déjà parlé de cela hier soir. Je rappelle simplement que le mot Christ signifie oint, le mot chrétien vient du mot Christ. Si le mot Christ signifie oint, chrétien signifie petit oint, appelé à marcher sur les traces de loin des oints Jésus-Christ, qui a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Tu es toujours ouin pour quelque chose. Tu n'es pas ouin pour te complaire dans ton onction. Tu n'es pas ouin pour faire un petit club onction. Ah, on va se prier les uns sur les autres. On va se prophétiser les uns sur les autres. Oui, on peut avoir des réunions comme ça. Mais quand ça devient que ça, il y a un problème. Parce que l'onction, elle est pour bénir les autres, pour briser les jougs dans la vie des gens. Alléluia. En d'autres termes, un chrétien doit être connu comme quelqu'un qui décomplique la vie des autres. Amen. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à annoncer partout où vous allez? Quand tu rentres à la maison, tu as une bonne nouvelle à annoncer à ta femme? Eh chérie, je t'aime, tu es la plus belle. Ou tu dis, oh, tu as pris 2 kilos. C'est une bonne nouvelle selon les gens. Hein? Je suis pas sûr que ça fait plaisir à toutes les épouses. Hein? Le chrétien, il a été oint pour apporter une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans l'ensemble de sa vie, il a de bonnes nouvelles à apporter. D'ailleurs, on peut prêcher et enseigner la bonne nouvelle. Il nous est dit que Paul et Barnabas, lorsqu'ils étaient à Antioche, prêchaient et enseignaient la bonne nouvelle. Quelle est la différence? Prêcher la bonne nouvelle, c'est annoncer Christ qui est mort pour nos péchés, c'est surtout le message de l'évangéliste, qui est ressuscité pour notre justification, qui veut nous guérir, qui veut nous aider à être transformés. C'est la bonne nouvelle, amen. Ensuite, on enseigne la bonne nouvelle. Des ministères d'enseignants nous expliquent des principes qui se trouvent dans la parole de Dieu, que Dieu a placé là pour nous permettre de réussir notre vie chrétienne. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, il y a prêcher et enseigner. Cet après-midi, on enseigne la bonne nouvelle. Mais ça demeure une bonne nouvelle. Alléluia. J'en ai assez de tous ces chrétiens et ces prédicateurs qui ont toujours une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Ils croient qu'ils vont nous aider à nous sanctifier en nous disant à quel point on est misérable. Mais non, plus ils nous le disent, plus on va agir comme des misérables. Amen. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. C'est pareil dans le couple, ok? Dans le couple, en chaque homme et en chaque femme, il y a quelqu'un de glorieux et quelqu'un de moins glorieux. En chaque homme, il y a un roi et il y a un fou. En chaque femme, il y a une reine et il y a une folle. Si le matin, ma femme, elle parle au fou en moi, je vais être conditionné à de plus en plus me comporter comme un fou. Et croyez-moi, j'ai des capacités pour ça. Mais si elle me parle comme un roi, il y a quelque chose en moi qui va dire, il ne faut pas que je la déçoive aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Allez, si à ta femme, tu lui parles comme à une reine, ouais, elle, chérie, il te faut le meilleur. Il te faut le meilleur. Tu es une reine, alléluia. Parce que tu es une reine, jamais je crie sur toi. Jamais je te toucherai, on ne touche pas une reine, alléluia. Ben, tu crois que ça va être difficile pour cette femme de t'aimer? Tu crois que ça va être difficile? Mais la relation de beaucoup de gens, malheureusement, c'est le fou qui parle à la folle toute la journée. Non, ça ne peut pas marcher. Tu comprends? Mais lorsque le roi parle à la reine, 36 ans de mariage après, c'est de mieux en mieux. Amen. Et nous avons besoin de témoignages comme ça. Parce que le peuple de Dieu, il est souvent découragé par les gens qui ont de beaux discours et qui ne les vivent pas. Alléluia. Donc, il est important que vous vous leviez en tant qu'individu, en tant que couple, en tant qu'église, alléluia, comme des témoignages. Parce que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu, Satan. À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. On a cru souvent que le témoignage... C'est parler, vous savez. Mais ça, c'était la notion grecque. Chez les Grecs, celui qui parlait le mieux, c'est celui qu'on écoutait. C'est ce qui se passe avec les politiciens aujourd'hui. Celui qui parle le mieux, il parle bien. Mais il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils témoignent, ils parlent, mais ils n'ont pas de vécu. Mais tu es supposé parler de ce que tu as vécu. C'est ça qui donne du pouvoir à ton témoignage. C'est pas de parler... C'est parce que tu parles et que tu racontes le concret de ce que tu as vécu. Et ça donne envie aux autres d'être changés parce que là, ils croient à ton témoignage. Et là, la puissance de Satan est brisée. Il vaut mieux pas beaucoup de paroles avec du vécu que beaucoup de paroles avec pas beaucoup de vécu. Donc l'onction que Christ a placée sur nous, elle est là pour briser les jougs. Donc nous devons être connus comme des gens qui décompliquons la vie des autres. Amen. Moi, je connais beaucoup de chrétiens, mais ils compliquent toujours la vie des autres. Pourtant, ils ont beaucoup de versets bibliques pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que les gens, ils ont envie d'être dans ton entourage? Parce qu'ils disent, dans l'entourage de cette sœur, ma vie se décomplique. Elle a toujours une bonne parole. Même quand j'ai plus le moral, au lieu de me dire, hey, tu manques de foi, tu devrais... Elle est là. Elle me remonte le moral. Elle me rappelle que la joie du Seigneur n'est pas loin. Elle me rappelle que j'ai de la valeur au lieu de me dire que je suis rien, que j'y arriverai jamais. Vous voyez que c'est comme ça qu'on aide les enfants? La Bible nous dit qu'il y a de la puissance dans nos paroles. Et c'est comme cela que l'onction de Dieu brise les jougs. Elle ne brise pas les jougs dans n'importe quelle condition, mais à condition qu'on comprenne certains principes de la parole de Dieu. Alléluia! Certaines personnes, parfois, vous avez l'impression que leur raisonnement, c'est « Donnez-moi quelque chose de simple et je vous le rends compliqué en 5 minutes. » Alors que notre appel, c'est le contraire. C'est de prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens et les pauvres, leur vie est suffisamment compliquée et de le rendre simple. Si les gens viennent à l'église pour que leur vie soit encore plus compliquée, ce n'est pas un témoignage. Ils doivent dire à l'église « On n'a pas les problèmes qu'il y a dans le monde. » Vous savez ce qu'ils disent parfois? Ils disent « Je n'ai pas besoin de venir à l'église, vous avez les mêmes problèmes que nous. Je n'ai pas besoin. Il y a un mot qu'on vous dit, vous n'êtes pas content, vous boudez pendant 3 jours. Mais on a déjà ça dans le monde. OK? On a oublié de vous rendre service, vous nous tirez la tête pendant une semaine. J'ai déjà ça, il dit. Il veut voir qu'est-ce qu'on a à proposer. Quelle catégorie de chrétiens nous avons à proposer dans cette église? Amen. Alléluia. Et quand l'onction est sur toi, elle va produire une autre catégorie de chrétiens que ce à quoi les hommes sont habitués. Vous savez pourquoi dans ces temps qui viennent, moi je crois à un grand réveil puissant? Parce que je crois qu'une partie de l'Église, pas toute l'Église, va se lever pour marquer la différence. Une partie de l'Église va en avoir assez d'être des chrétiens normaux. Ils vont avoir envie de marquer la différence. Ils vont en avoir assez d'être des couples normaux où on ne voit pas la différence avec les couples du monde. OK ? Ils vont dire, chérie, on veut marquer la différence. On veut que nos enfants, ils voient les premiers la différence. Amen ? Quand ils parlent avec les copains à l'école. Ça, cette église, elle a un pouvoir. Cette église, elle brise le pouvoir de Satan parce qu'elle a un témoignage. Parce que l'onction qui est sur elle brise en effet les jougs. Alléluia ! Cette nouvelle créature, elle a reçu une autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, s'il nous a été donné quelque chose, nous avons donc reçu quelque chose. C'est logique. Alors, je suis d'accord avec vous. Parfois, on a l'impression qu'on n'a rien reçu parce qu'on vit dans un corps de chair. Et si nous nous fions à ce que nous sentons, on a l'impression que parfois, on n'a rien reçu. Il y a des jours, on sent la présence de Dieu. Oh, c'est merveilleux, on a l'impression que ça va durer 6 mois. Et puis le jour d'après, on ne sait pas, on a mal dormi, on a mal digéré le steak de la veille ou quoi. Et on se lève, on ne sent plus la présence de Dieu. Et là, si on écoute nos émotions, on va dire, Dieu m'a abandonné. Mais non, il est toujours là. Ce sont simplement tes émotions qui ont changé. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre en fonction de tes émotions. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Alléluia. Et je dirais que c'est parfois dans les moments où tu sens le moins que Dieu va faire les plus grands miracles. C'est parfois le jour où tu as le moins envie de venir à la réunion que Dieu t'attend. Et c'est parce que le diable sait que Dieu a quelque chose à te donner d'important qu'il ne veut pas que tu viennes ce jour-là. Moi, j'ai vu des gens, j'ai été pasteur pendant plusieurs années, aller aux toilettes au moment où il y avait une parole de Dieu pour eux. Le diable, il ne veut pas que tu sois béni. Il va jouer avec tes émotions, avec tes sens. Et si tu dépends toujours de tes émotions comme les gens de ce monde, tu seras toujours dirigé par tes émotions. Quoique tu aies une nouvelle créature, tu vivras quand même comme si tu n'étais pas une nouvelle créature et tu auras les mêmes problèmes de ceux qui n'ont pas cette nouvelle vie en eux. Parce que ça ne marche que par la foi. Alléluia. Alors nous avons reçu une autorité. Alors, comment vous imaginez... Vous imaginez l'autorité. Regardez, imaginez qu'avec mon épouse, on va à la boulangerie. Oui. Et je lui dis, on va acheter le pain, mais c'est toi qui vas l'acheter, là. Moi, je suis en train de téléphoner. Voilà. Quand la boulangère... Après, elle les garde, c'est ce qui est embêtant. Lorsque la boulangère te donne le pain, tu payes. Imaginez qu'au moment où la boulangère lui donne le pain, elle se tourne vers moi, elle me dit, vas-y, paye. Je lui dis, chérie, je t'ai donné. Vous avez vu quelque chose? Des fois, je lui donne que 5 euros quand je fais ça. Parce que ça me revient moins cher. Ça me revient cher, la prédication. Et c'est parfois la relation que nous avons avec Dieu. Il nous a donné quelque chose, mais on nous a parfois enseigné à tellement manquer de confiance en nous, plutôt dans le dépôt que Dieu a placé en nous, qu'au moment d'exercer l'autorité, on se tourne vers Dieu le Père, on dit « Père, fais quelque chose !» Alors le Père répond à ma prière. Vous savez comment il répond à ma prière? Il me dit « Fais quelque chose !» J'ai dit « Attends, tu n'as pas compris, Seigneur. Je veux que tu fasses quelque chose. » Il me dit « Oui, je fais quelque chose à travers toi et à travers l'autorité que je t'ai donnée. Donc il faut que tu bouges là, il faut que tu agisses. » Tu as vu que ça peut durer longtemps. On peut passer toute sa vie à avoir une fausse forme de vie de prière. Qui est « Seigneur, fais ça !»« Oui, fais ça !»« Seigneur, fais ça !»« Oui, fais ça !» Et il n'y a rien qui se fait. Je crois que c'est Kenneth Hagin qui avait reçu cette révélation de Jésus qui lui disait « Si rien n'est fait par mon Église, rien ne sera fait. » Parce que j'ai donné mon autorité à l'Église. Oui, il nous a donné l'autorité, ce verset a un sens, ou alors il ne nous a pas donné l'autorité et on doit remettre beaucoup de choses en question. Oui, mais je ne la sens pas. Mais personne ne te demande de la sentir. Parce que c'est peut-être au moment où tu la sens le moins que Dieu va tellement apprécier que tu crois quand même qu'il va faire des miracles. Vous savez, parfois, il vous arrive, vous voulez tellement que la personne, elle soit guérie. Et vous êtes là, oh non, Jésus ! Il a mal à la tête, après la prière, il a encore plus mal à la tête. Et moi, ça m'est arrivé, des fois, les gens s'avancent, j'ai tellement envie qu'ils soient guéris, bon, il n'y a rien qui se passe. Et puis, sans faire esprit, j'embroche quelqu'un, et hop, il y a l'onction qui sort et il est guéri. Alors là, tu dis, Seigneur, je ne peux même pas tirer gloire de ça. Vous voyez, il faut à la fois croire que tout est possible, simplement des mouchoirs, amen, à cause du dépôt qu'il y a en nous, et d'un autre côté, pas trop se prendre au sérieux, parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Alléluia. Dis-le à ton voisin, tu as reçu autorité. Un petit verre d'eau, un petit peu. Et le dernier point que je veux partager avec vous, c'est la position de cette nouvelle créature. Merci. Exactement, oui, monsieur. Alléluia. Au sujet de la justice, ma femme me rappelle quelque chose d'important à préciser. Tu n'es pas un pécheur qui s'efforce de faire des actes de justice. Je suis un pécheur, mais j'essaie d'être juste, ok ? Non, tu es un juste à qui il arrive de pécher. C'est pas pareil. Il t'arrive de pécher. On ne nie pas qu'il t'arrive de faire des erreurs. Des fois, tu te mets en colère, puis tu le regrettes, ok ? Mais ça ne veut pas dire que tu es un misérable pécheur qui essaie d'être juste. Non, tu es déjà un juste. Mais ce juste, il vise dans un corps de chair. Donc quand tu te regardes, ne te regarde pas comme pécheur, même quand tu as failli. Parce que le fait que tu aies failli ne change pas ta nature. Hello, c'est fort ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu as mal dormi, que tu ne sens pas la joie, que tu es fatigué, ça ne change pas Dieu. Tu peux quand même prier pour quelqu'un. Parce que le diable, il nous dira, non, aujourd'hui, tu ne peux pas prier aujourd'hui. Tu n'es pas en forme. Ça me rappelle, je crois que c'est le même serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, les jours, il avait fait plusieurs réunions, ils avaient prié pour les malades, il devait faire encore une réunion et il n'en pouvait plus. Alors, il était en train de se préparer, là, de mettre son costume pour faire la réunion. Et il se met à prier le Seigneur et il lui dit, Seigneur, je ne sais pas comment on va faire aujourd'hui, fatigué comme je suis. Et véridique, il a entendu la voix audible de Dieu qui lui a dit, pourquoi tu as l'intention d'aller guérir ? Véridique. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je me réjouis même de mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que je sais que je ne peux pas m'approprier cette puissance. Elle passe à travers moi, mais je sais que ça ne dépendait pas du fait que j'étais au top. Amen. Donc arrêtez, et je me parle à moi le premier, de croire les mensonges du diable. Tu n'es pas en état. Aujourd'hui, je ne peux pas te bénir. Dieu, il te bénira dans ta faiblesse. Parce que parfois, quand on est faible, on est humble aussi. Quand on ne se sent pas à la hauteur, au moins on est humble. Quand les gens ont trop confiance en eux, ça m'inquiète. Amen. Serviteur de Dieu superstar, ça m'inquiète. Mais il n'y en a pas ici. Sur Paris, il n'y en a pas. Alléluia. Et je veux terminer avec le dernier point, c'est que vous réalisiez la position. La position de cette nouvelle créature. Vous êtes assis sur ces chaises, ces très belles chaises bleues, ici, dans votre corps de chair. Mais il y a une part spirituelle de vous qui est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque Christ est ressuscité, il nous a fait asseoir. Alors, on ne peut pas le comprendre avec notre cerveau limité, mais si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. C'est qu'une part spirituelle de nous est assise dans les lieux célestes. Et il faut garder devant les yeux cette part spirituelle pour comprendre notre autorité. Amen. Nous sommes donc au-dessus, parce que Jésus a été placé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus du cancer, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de tous les accidents. Comme l'a dit Julia, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parfois se retrouver dans ces situations, mais il est au-dessus pour nous en sortir. et nous donner la victoire. Amen. Et pour comprendre cela, il faut comprendre peut-être le parcours de l'homme depuis le début. Lorsque Dieu crée l'homme, il est dit qu'il les crée à son image. Pourtant, il a quand même créé peut-être des myriades d'anges déjà qui, quelque part, sont créés à son image. Ça veut dire que l'homme, il est particulièrement créé à son image. Amen. Ça veut dire qu'il a décidé même de placer l'homme au-dessus des anges, même si provisoirement, il le place au-dessous dans le jardin d'Éden. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin d'Éden ? Il était en formation. Il apprenait à régner. Et ici, vous êtes en formation ce week-end pour apprendre à régner, pour apprendre qui vous êtes et pour apprendre où vous êtes placé, pour apprendre la valeur qui est la vôtre, parce que si vous n'aviez pas de valeur, Jésus ne serait pas venu mourir pour vous. Et Dieu vous a tant aimé qu'il a donné la vie de son Fils unique. Ce n'est pas pour que quelqu'un vienne vous prêcher d'une estrade que vous n'êtes rien. Alléluia. Aucune personne ne peut avoir la joie s'il pense qu'il n'est rien du tout. S'il pense qu'il n'a pas de valeur, ce n'est pas possible d'avoir de la joie. Amen. C'est impossible. Ce n'est pas juste de demander à quelqu'un à qui on a dit qu'il est rien, qu'il est minable, et que Dieu l'a sauvé comme ça parce qu'il n'avait rien d'autre à faire ce jour-là. D'avoir la joie. La joie, elle vient quand on sent que notre Papa Céleste, il nous aime. Il nous valorise. Il a donné le meilleur pour nous. Alléluia. Alors, l'homme, Dieu le crée. Il le place dans le jardin d'Éden, mais il le crée pour être au-dessus. Puisqu'il le crée à son image. Amen. Il le crée pour régner à ses côtés. Il le crée pour régner dans un monde qui est une copie du ciel. Parce que ce qui est visible vient de l'invisible. C'est pour ça que lorsque les gens vivent une expérience, ils vont au ciel, ils disent, c'est marrant, il y a des tas de trucs qui ressemblent à la terre. Je ne pensais pas que je verrais des arbres au ciel. Je pensais pas que... Mais la Bible nous montre un ciel très concret. Il y a des rues d'or, il y a une ville. C'est concret. Parce que c'est normal que la terre ressemble au ciel. Elle a été faite sur le modèle du ciel. Donc cet homme-là, il a été placé pour régner sur la terre. Et la chute intervient. Qui est au courant ? Si vous n'êtes pas au courant, on va prier de suite. La chute est intervenue. Satan a fait chuter l'homme. Amen. Sa nature a été corrompue. D'au-dessus, l'homme est passé au-dessous. Tellement au-dessous que lui qui était appelé à régner sur cette terre se retrouve dominé. Même par les animaux, selon où il se trouve, il risque de se faire manger aujourd'hui. Ok ? Il est dominé par la sexualité dépravée, il est dominé par la drogue, il est dominé par ses instincts, il est dominé par la violence. Lui, de dominant, il est devenu dominé. D'au-dessus, il est passé au-dessous. Dans sa grande miséricorde, Dieu ne nous a pas laissés dans cet état. Il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Qui est au courant ? Sinon, c'est très grave. Il a envoyé mourir pour nous. Alléluia. Mais mourir pour nous, ça a tout un sens. C'est pour que notre esprit qui était mort soit recréé. Amen. Et là, en ressuscitant, il nous fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité. C'est l'apôtre Paul qui dit « Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. » Donc, d'au-dessous, l'homme se retrouve de nouveau au-dessus. Mais Adam étant mort et son esprit étant mort, nous ne pouvions être recréés en Adam. Nous avons donc été recréés en Jésus. Jésus qui est Dieu. Est-ce que Jésus est plus grand qu'Adam ? Donc, au lieu de perdre, nous avons encore plus qu'avant de perdre. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Et le diable, il n'aime pas ça. C'est que quand Dieu, il te relève, quand Dieu, si tu as vécu un divorce, si tu as vécu quelque chose de dur dans ta vie, quand Dieu te relève, ce n'est pas pour te donner moins bien. C'est pour faire en sorte que tu aies encore mieux que ce que tu as perdu. J'arrive pas à comprendre les gens qui nous disent que c'est terminé maintenant, il faut se contenter des miettes. Parce que Dieu, dans son omniscience, la Bible nous dit qu'avant même que tout cela arrive, l'agneau avait été immolé. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, mais Dieu, il est hors de notre temps. Il a déjà prévu des solutions avant même que tes problèmes et tes échecs ils arrivent, pour que quand il te relève, tu ne te retrouves pas au-dessous de où tu étais avant que la chute intervienne. C'est comme ça que je comprends Dieu. Sinon, c'est un petit Dieu. Mon Dieu, c'est un grand Dieu. Alléluia. C'est-à-dire donc que tu es recréé en Jésus-Christ dans une position spirituelle, et nous l'avons vu hier avec Jean-Baptiste, vous vous rappelez ? Dans une position spirituelle qui est supérieure à celle qu'avait Adam lorsqu'il était quand même placé au-dessus. C'est-à-dire que notre au-dessus, aujourd'hui, en Jésus-Christ, est encore plus au-dessus que l'au-dessus que connaissait Adam lorsqu'il était placé au-dessus. Mais c'est pour ça qu'on loue Dieu. Ce n'est pas un petit salut. Ce n'est pas un salut de poche. Ce n'est pas un salut made in Taiwan. Excusez-moi, mais la vie de tant de chrétiens, on dirait que c'est fabriqué en Chine aujourd'hui. Ça ne tient pas. Il nous faut du vrai là-haut. On a trop de toc. Hey! Hey, on veut le vrai truc, parce que ce que Jésus a accompli pour nous, vous voyez qu'on ne glorifie pas l'homme, on glorifie Jésus là, ce qu'il a fait. Ouh, c'est fantastique. Et quand on loue Dieu là derrière les micros et qu'on pense à ces choses-là, oh, mais on ne peut pas rester tranquille. Vous comprenez ? C'est pour ça, régulièrement, il faut se les rappeler. C'est pour ça que c'est lié à la joie. On ne veut pas être obsédé par la joie. On l'a vu hier, il y a les moments normaux de tristesse aussi. Mais il y a de quoi être dans la joie, même quand on est dans la tristesse. D'ailleurs, la Bible, elle parle de deux joies. Elle parle de la joie du salut. Tu peux être dans un fauteuil roulant, mais tu as la joie du salut parce qu'il vaut mieux rentrer au ciel dans un fauteuil roulant qu'aller en bonne santé en enfer. Ok ? Tu peux ne pas avoir un radis en poche, avoir tes comptes en banque dans le rouge, tu peux quand même être joyeux. Parce que tu es sur le chemin du ciel et qu'il y a des tas de riches qui sont en train de partir en enfer. S'ils meurent cette nuit, ils partent en enfer et leurs richesses ne les suivent pas. Alléluia. Il y avait le pauvre qui mendiait à la porte du riche Lazare. Il n'avait pas réussi sa vie, on pourrait dire. Il mendiait, mais quand il meurt, les anges le prennent et ils l'amènent, alléluia, dans le sein d'Abraham. Amen. Donc déjà, nous devons avoir la base de notre salut et ne pas nous laisser voler. Je parle pour moi le premier, parce que comme Dieu veut qu'on enseigne beaucoup de principes de sa parole, parfois après on se concentre tellement sur les principes de sa parole et le principe de prospérité, et j'y crois, hein, moi, et je le prêche dans des mesures normales, okay, qu'après on oublie la simple joie du salut. Ah, j'ai pas ça, il y a ça qui marche pas, donc j'ai pas réussi ma vie chrétienne, donc je suis pas à la hauteur. Donc... Et ça n'empêche pas que tu es sauvé, tu es sur le chemin du ciel. Il faut se rappeler de ça, parce que sinon, tous ces enseignements deviennent une occasion de chute. Ces mêmes enseignements qui nous sont donnés pour nous bénir, ils nous culpabilisent continuellement. J'ai pas assez de foi, j'ai pas assez gagné d'argent, j'ai pas réussi à être guéri, je suis rien. Non, tu demeures quelqu'un de valeur, même si tu n'as pas réussi toutes ces parties, ou pas encore. La base de la joie du salut. Amen. Et après, il a quand même dit, je prie afin que votre joie soit parfaite. C'est difficile d'avoir la joie parfaite quand tu es malade sur un lit. C'est difficile quand tu n'arrives pas à payer ton loyer en fin de mois. On est d'accord? Quand tu t'es disputé avec ta femme et qu'elle ne veut plus te voir. C'est difficile. On est d'accord? Donc Dieu veut aussi qu'on ait la joie parfaite. Mais c'est un chemin de toute une vie, la joie parfaite. Amen. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui l'a atteint, moi pas encore, mais j'y travaille. Mais je suis sur 10, c'est pas mal. Si je... Parce que je suis un prédicateur qui part du principe que je dois à tout prix apporter aux gens quelque chose que je vis. Sinon, il faut que j'arrête de prêcher. Ok ? Donc régulièrement, il est important de se remettre en question, de se remettre devant Dieu chacun, puis de revenir aux bases et de revenir au fondement. Amen. Donc, tu es au-dessus. Alors, dis-le à ton voisin, tu es au-dessus, pas au-dessous. Tu es au-dessus et pas au-dessous. Pourquoi il faut s'en rappeler? Pourquoi? Il est important que tu te rappelles cette prédication de cet après-midi. Pourquoi? Parce que dès lundi, on va essayer de te tirer au-dessous. Ou alors peut-être que ton conjoint n'est pas converti. Dès que tu rentres, quelque chose va essayer de te tirer au-dessous. Toujours te ramener au-dessous. Le diable veut toujours nous ramener au-dessous. Pourquoi? Parce que quand il sait qu'il a réussi à nous mettre dans notre tête au-dessous, il sait qu'il peut nous marcher dessus. Vous comprenez? Mais la Bible nous dit que c'est lui qui est au-dessous. Et non pas à cause de la perfection de ce que je vis, mais à cause de Jésus-Christ. Et plus j'ai les yeux sur ce que Jésus a accompli en moi, plus je le vivrai. Alléluia. Donc n'attendez pas de vivre une vie de juste pour vous considérer juste. Considérez-vous juste dès maintenant. Alléluia. Considérez-vous comme ayant de la valeur. Amen. Et vous avez le droit, tout en étant respectueux, à dire à quelqu'un, tu ne me parles plus comme ça. J'ai Jésus en moi, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Ok. On s'est marié, je t'aime, mais tu n'as pas à me traiter comme ça. Je ne suis pas une serpillère, je suis une enfant de Dieu. Amen. Je n'ai pas à rougir de ce que je crois. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait nous faire rougir d'être chrétien. Aujourd'hui, si tu chantes Satan, si tu chantes l'inceste, si tu mets en évidence toutes les perversions possibles, imaginables, on ne te dit rien. Mais tu dis, je crois en Jésus, ouais, il y a un problème, lui. Dans quel monde est-ce qu'on vit? On a failli élire un président qui est quelqu'un de complètement perverti. Notre pays de la France, mais... Et celui qu'on a mis à la place, ça ne nous a pas aidés. Mais vous voyez, on est dans un monde qui dit, peu importe la vie privée d'une personne, pourvu qu'elle nous gouverne bien. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre, il ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre, il ne peut pas porter de bons fruits. Si tu es adultère dans ta vie privée, tu seras adultère dans ta mission de ministre, dans ta mission de président vis-à-vis des autres. Tu seras adultère dans les choses de la vie de tous les jours. Parce que ça commence par la vie privée. Amen. Parfois, on dit, oui, on est chrétien, on ne juge pas. Hey, l'homme spirituel juge de tout. Il ne condamne pas, ce n'est pas pareil. Le mot jugement, il a deux sens dans l'Écriture. Le sens d'examiner les choses et d'avoir une opinion précise sur les choses et le sens de condamner. Donc, on n'est pas là pour condamner, mais on a intérêt d'avoir des opinions. Parce que si tu n'as pas d'opinion, il y aura toujours quelqu'un qui en aura à ta place et pour décider quelles devront être les 20 prochaines années de ta vie. À ta place. Et dans l'Église. Et parfois, en disant « l'Éternel m'a dit ». Enfin, ça n'existe pas ici, mais à Toulon, parfois. Alléluia! Donc voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Ça parle de vous et ça parle de Christ. Pourquoi? Parce que le message de l'Évangile, il marche dans les deux sens. Si nous n'étions pas là, Christ ne serait pas venu. Amen. Et si Christ n'était pas venu, nous serions en mauvaise posture. Amen. Donc Christ, nous le glorifions. Est-ce qu'on peut lever les mains et glorifier le Seigneur cet après-midi? Nous glorifions Jésus cet après-midi. Nous le glorifions. Alléluia. Et si quelqu'un cet après-midi a besoin de changer le panneau qui est à la porte de son cœur, parce qu'il est continuellement sous la culpabilité, sous la condamnation, levez-vous juste à votre place. Alléluia. C'est l'acte de foi que vous allez faire cet après-midi. Si vraiment vous êtes sous la condamnation, trop souvent, alléluia, nous ne sommes pas là pour vous condamner. Amen. Levez-vous et en vous levant, vous, spirituellement, vous imaginez que vous tournez le panneau dans votre cœur. Vous êtes rentré en coupable, à vos propres yeux, ressortez en juste. Alléluia. Personne ne vous juge et ne vous condamne cet après-midi. Nous avons tous besoin régulièrement de changer le panneau que nous avons laissé le diable réinstaller. Alléluia. Si d'autres personnes ont un problème particulier avec la culpabilité et la honte, levez-vous à votre place. Le Seigneur me donne le mot honte. La honte, alléluia. Il y a des personnes aussi qui c'est délicat à dire, mais peut-être des gens qui ont été touchés quand ils étaient jeunes et qui ont vécu avec cette honte. Et comme ils n'ont pas appris à prendre la mesure de leur propre valeur en Jésus-Christ, cette honte continue à revenir régulièrement. Donc, débarrassez-vous de cette honte. Vous êtes lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous êtes saints, purs, irrépréhensibles. Alléluia. Vous êtes vierges en Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, vous avez de la valeur qui a été estimée au prix de la vie du Fils unique de Dieu. Alléluia. Dans vous, vous avez une autorité. Le diable veut vous faire dire, non, toi parce que tu as vécu ça, parce que tu as vécu ça, non. Si, tu as autorité. Merci. Laissez l'amour de Dieu vous remplir cet après-midi. Oh, Barana Shandara, vous êtes placé au-dessus. Au-dessus. Sortez d'au-dessous. Il y a une parole que Dieu veut adresser à plusieurs d'entre vous. Mes enfants, sortez d'au-dessous. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous cacher, comme Saül qui se cachait quand Dieu venait le chercher pour qu'il puisse servir. Et vous vous cachez parce que vous vous sentez indigne. Et pourtant, Dieu voit tous les efforts que vous avez faits dans votre vie.